Europe 1 13h.
13h46 sur Europe 1, la suite de Europe 1 13h avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain et essayiste Paul Melun et le magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger.
Et on va maintenant parler de ce déplacement à Bergerac. C'était jeudi, Emmanuel Macron qui en a profité pour fermer une nouvelle fois l'hypothèse d'une hausse de nos impôts, et ce malgré l'appel d'une partie de la classe politique à revenir sur cette promesse pour réduire le déficit public. Il s'est exprimé sur le sujet, écoutez.
On doit en responsabilité répondre à ce choc conjoncturel. Et donc la ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. Un, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. Trois, on est responsable. Ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année.
Voilà Emmanuel Macron hier à Bergerac. Alors on se demande comment il va faire pour réduire ce déficit, Emmanuel Macron, s'il n'augmente pas les impôts.
C'est tout le défi. C'est-à-dire que là, l'extrait que vous avez diffusé, il est intéressant. Parce que moi, pour une fois, je vais vous dire du bien du président de la République. Quand il parle de réindustrialisation, par exemple, de la production, ouais, de l'emploi, je peux être que d'accord avec lui. De fait, si on augmente notre croissance, donc notre PIB, via un certain nombre d'investissements pour les emplois productifs, via un certain nombre d'investissements pour le retour à l'emploi, etc., de fait, on va remettre de l'essence dans la machine, si je puis employer cette expression, et eh bien, le déficit va mécaniquement se réduire puisque les recettes de l'État vont être augmentées par la production. Donc, si le président de la République passe par là, je suis d'accord. Maintenant, pour le moment, ça sonne aussi un peu comme des vœux pieux parce qu'il explique tout cela, mais la traduction politique, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été de nous parler de l'assurance chômage,
oui,
qu'on a présenté comme l'alpha et l'oméga de la réduction de notre déficit. Or, la réduction de notre déficit, c'est pas que ça. On en parlait à l'instant, c'est une grande et belle politique économique autour de la production et de la réindustrialisation. Comment on réindustrialise et comment est-ce qu'on protège nos industries si on ne fait pas de protectionnisme ?
Mm-hmm.
Là, je ne comprends pas le Macron mondialiste par rapport au Macron qui veut faire du produire en France, le Macron montebourrien, pourrait-on dire. Donc, je pense qu'il y a là une contradiction entre ces deux facteurs. Et puis ensuite, sur les impôts, le président de la République dit qu'il ne veut pas augmenter d'impôts, ok. Mmh. Pour le moment, il a baissé les impôts de certains, les plus riches, notamment sur l'ISF, il a supprimé l'impôt sur la fortune immobilière, sur la fortune sur les valeurs mobilières et non immobilières, et il a fait la flat tax. Peut-être qu'il pourrait revenir là-dessus, ça pourrait être intéressant. Or, il ne veut pas taxer ce qui s'apparente à la finance. Il s'est aussi montré opposé, notamment en Europe, à une taxe Tobin.
Ouais.
Vous savez, cette taxe sur les transactions financières. Donc, tout ce qui s'apparente à une taxation de la finance, il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas taxer les ménages pour le moment. Moi, je demande à voir et je suis un peu méfiant.
Philippe Bilger, alors, l'expression maladie française, parce qu'il a employé cette expression,
absolument,
en disant les impôts, la hausse des impôts, cette maladie française, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors,
il a raison de l'utiliser ?
Il me semble, Céline, sous le contrôle de Paul, le vôtre, et de tous ceux qui connaissent véritablement l'économie, je crois qu'il a raison de ne pas vouloir augmenter les impôts. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'injonctions dans les propos du président qui relèvent des vœux pieux. Je pourrais parler, l'école doit demeurer un sanctuaire. Il l'a dit dans le même, oui, mouvement, et il développe en, absolument, disant c'est uniquement les recettes qui sont sous-estimées. Mais moi, ce qui me frappe, et là, peut-être ai-je tort de mettre de la psychologie dans l'économie, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on sent que les principes économiques chez le président à l'heure actuelle sont très largement inspirés par des détestations personnelles.
C'est-à-dire
je veux dire par là que derrière sa volonté de maintenir des fondamentaux sans accepter la discussion contraire, il y a probablement son hostilité à l'égard de Bruno Le Maire.
Qu'il a balayé, il a dit oui, non, tout va
oui,
bien dans la Maison
mais
Bleue.
Mais n'empêche que Céline, la volonté de donner l'impression qu'il agit encore, alors qu'en 2027 il ne sera plus là, de damer le pion à Bruno Le Maire qui l'agace au plus haut point, altère un tout petit peu ce que la rationalité économique chez lui devrait nous inspirer.
Paul Melun.
Philippe a raison, il y a à mon avis, et ça s'ajoute à la complexité de notre discussion et de notre réflexion sur le fond de la politique économique du président, il y a aussi des enjeux de politique politicienne, la volonté parfois de ne pas prendre aussi des propositions qui par exemple viendraient des LR ou de la gauche sur d'autres sujets par dogmatisme ou pour dire qu'il reste centré sur sa majorité, etc.
Il garde le cap, etc.
Je crois que cette tambouille politicienne dessert le fond du propos. Et j'ajoute qu'un autre point qui est rarement exploité ou plutôt souvent est un vœu pieux aussi et qui pourrait contribuer à réduire notre déficit, c'est le train de vie de l'État. C'est la débureaucratisation qu'il faudrait mettre en place de ce pays. C'est le millefeuille territorial que nous avons avec
nos
collectivités.
C'est pour ça qu'il a évoqué.
Et là, il y a du travail.
Voilà, le licenciement des fonctionnaires. Voilà, c'est des petites pastilles qu'il distille.
Et éviter la motion de censure.
Absolument.
Ah oui, c'est ça. Donc,
ça explique beaucoup
de choses. C'est vrai, il a le spectre de la motion de censure des LR qui pourrait... complètement rebattre les cartes, voire le pousser à la dissolution, ce qui est complètement inenvisageable.
Et sur l'utilisation de la maladie française, ce terme qu'il a employé à plusieurs reprises.
J'aime pas trop ce terme.
C'est assez surprenant.
Céline, à une certaine époque, quand j'étais en pleine magistrature, on disait que la fraude fiscale, c'était le sport national français. Oui. Eh bien, il faut croire qu'augmenter les impôts, ça l'est peut-être sur un autre plan.
Alors, autre annonce qui fait la une aujourd'hui, c'est le gouvernement qui compte mettre fin au logement social à vie pour certains locataires. Alors, la mesure sera inscrite dans le projet de loi logement qui sera présenté en mai, le gouvernement qui souhaite donc que les bailleurs sociaux réexaminent finalement régulièrement la situation de leurs locataires, qui changent parfois effectivement d'orientation professionnelle, qui gagnent davantage de revenus et qui continuent à occuper ces logements. On le rappelle, il y en a un peu plus de 5 millions en France et ce n'est pas suffisant, Philippe Bilger. Que pensez-vous de cette idée d'inscrire dans la loi désormais cette règle ?
Évidemment, d'abord, je trouve que le recours systématique à la loi est un peu agaçant en France. On donne l'impression, parce qu'on a fait voter une loi, qu'on a accompli une action, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais deuxième élément... d'une certaine manière, que le gouvernement affronte des problèmes réels et tente de battre en brèche une espèce d'égalité absurde qui dure toute une vie alors que les revenus ont changé, je trouve que c'est assez courageux, comme ce qu'a dit le ministre Guerini sur la fonction publique. Mais est-ce que ce sera mis en œuvre ? Je n'en sais rien.
Vous n'êtes pas sûr, Paul Belin.
En tout cas, c'est vrai que le sujet de la rotation... des logements sociaux est un bon sujet. Et qu'effectivement, si vous avez des personnes qui, à un moment donné, ont une hausse de revenus significative et durable, il ne s'agit peut-être pas d'enlever les gens de leur logement social si tout à coup, par chance, ils font un bon mois ou six bons mois. Il faut définir ça. Mais effectivement, qu'il y ait une rotation, parce qu'il y a énormément de demandes qui sont en attente vis-à-vis des logements sociaux.
Il y a 1,8 million de ménages qui candidatent actuellement. Et il y a 5,2 millions de logements sociaux, mais qui sont occupés avec très peu de mobilité, finalement.
Bien sûr. Donc, il faut penser à tous ces ménages qui ont besoin de logements sociaux. J'ajoute qu'il y a peut-être aussi à la fois un besoin de construction d'un certain nombre de logements sociaux et aussi de restauration de bâtiments qui sont non occupés, qui sont vacants. Ça, c'est très important. Et qu'il faut aussi penser au logement intermédiaire. On en parle moins, mais dans le logement social, il y a aussi le logement intermédiaire, notamment pour les classes moyennes. Parce qu'effectivement, on se soucie souvent, et c'est bien légitime d'ailleurs, des populations les plus précarisées pour leur trouver un logement. Mais aujourd'hui, si vous appartenez à la classe moyenne et que vous voulez vous loger dans une grande métropole, je pense par exemple à Paris, c'est très difficile. Mmh. Même si vous avez un salaire correct à deux ménages, un ménage, par exemple un couple, et que vous avez un salaire correct, pas moi, de 4 500 euros ou 5 000 euros à deux, ce qui est un bon salaire en province, à Paris, pour vous loger avec ce prix-là, pour peu que vous ayez des enfants, c'est très difficile. Donc il faut aussi que ces ménages-là, ils puissent avoir accès à des logements pas trop loin de leur travail et leur éviter d'avoir une heure de transport en commun à faire ou de venir en voiture. En plus, quand on voit comment Madame Hidalgo a fait son plan de circulation, quand vous arrivez du Val-de-Marne et que vous venez travailler en région parisienne, je peux vous dire que c'est quand même du boulot. Donc il faut penser à tout ça et il faut aussi avoir effectivement cette vision à double entrée. C'est-à-dire à la fois une vision sur les rotations pour éviter qu'il y ait des personnes qui profitent.
Il y a 8% à peu près du parc HLM qui est occupé par des personnes qui gagnent trop.
Ces 8%.
Voilà. Et après, il y a effectivement toute la problématique des communes qui doivent avoir un taux de 20 à 25% d'habitation à loyer modéré. Là aussi, toutes les 3 ans, elles ont l'objectif de remettre à niveau sous peine d'une amende, qui, je le rappelle, ont rapporté à l'État 250 millions d'euros en 2023.
Et certaines communes, j'ai cru le comprendre, préfèrent payer des amendes que...
Plutôt que de construire des logements sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Philippe Bilger ?
Je trouve, là, pardon, de faire dans une contradiction apparente, à la fois, je regrette que les communes ne respectent pas la loi.
Alors, Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus mauvais élève. 95 communes carencées sur 195 soumises à un bilan.
Il y a une forme de rationalité dans cette perversion. Parce qu'on comprend bien pourquoi ils ne respectent pas, et c'est scandaleux.
Pourquoi ils ne respectent pas ?
Je pense qu'ils considéreraient que les logements sociaux viendraient défigurer le visage magnifique de midi. Oui, je pense que c'est ça.
On peut faire des logements sociaux.
Social ou sécuritaire.
Cacher ce logement social que je ne saurais voir.
C'est quoi, c'est architectural ou selon vous c'est plus sociologique, plus profond?
Les deux, sociologique, architectural. Il ne faut pas que la richesse soit gênée par des visions malheureuses.
Ouais, très juste. Paul Bilger. Oui, Paul Bilger,
si
Paul Melun.
Ça, on va prendre mon lien de parentalité avec Philippe.
Ah ben moi, j'étais très volontaire.
C'est vendredi, voilà, c'est vendredi.
Philippe Melun.
C'est la fin de semaine,
c'est mon père spirituel. Philippe Melun. Mon père spirituel. Non, je pense que.
Malheureusement.
Par l'âge, par la pensée. Non, je pense qu'il y a un vrai enjeu, si vous voulez, à ne pas être dans la contrainte des communes qui ne veulent pas accepter de logement social, mais à se poser les questions, effectivement, comme le faisait Philippe, de pourquoi est-ce qu'elle refuse le logement social. Et de faire en sorte que pour que le logement social soit mieux accepté, qui soit plus harmonieux avec le bâti local. Moi, je suis un grand défenseur, un grand ami du patrimoine. Effectivement, si à côté d'un château du 15e siècle ou d'une église du 3e, du 13e siècle, on vous met une barre HLM, je ne suis pas content. Par contre, si jamais ces logements sociaux y sont, moi j'ai vécu en Suède, il y avait des logements, si vous voulez, qui étaient plutôt des logements pour les personnes vraiment très défavorisées, notamment en banlieue de Stockholm, où vous aviez des 3-4 étages avec des jardins verdoyants, etc. Si ça, c'est les logements sociaux, je suis d'accord. Et ensuite, sur la question de la sécurité ou des questions de sociologiques, là, c'est aussi, si vous voulez, les questions d'assimilation et d'intégration, les questions sécuritaires, les questions de services publics de proximité, d'école, etc. Et aussi d'équilibre. C'est-à-dire qu'une commune de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 habitants, ce qui n'est pas énorme, si vous mettez tout à coup comme ça énormément de logements sociaux et qu'arrivent des personnes qui sont ramenées d'un certain nombre de grandes villes, etc., ça va déséquilibrer l'écosystème local. Donc il faut que ce soit bien géré aussi au niveau du nombre pour ne pas que ça crée des déséquilibres. Mais le problème, c'est que bien souvent, toutes ces considérations que je cite là, en vérité, tout le monde s'en fiche. On impose, on amène du logement social en masse, les gens ne sont pas contents et c'est le tonneau des Danaïdes.
Bon, ben vous allez bosser au ministère du Logement.
Mais je vais envoyer ma candidature à Emmanuel Macron, on va voir ce qu'il en dit.
Bah, le comte sait qu'il pourrait faire aussi bien.
Ça. Merci beaucoup Paul Melun, Philippe Bilger pour ce décryptage. C'est déjà fini,
c'est
ça passe tellement vite.
Franchement,
et on remet ça la semaine prochaine, bien sûr, dès
13h. Je l'espère.
Merci à tous nos auditeurs aussi, très nombreux à nous appeler aujourd'hui, Europe 1 13h, et à très vite, à la semaine prochaine.
C'était Céline Giraud sur Europe 1, et un très bon début d'après-midi.